c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bonjour les ados, bonjour les parents, je suis Julie Sigel et pour la deuxième semaine consécutive, je reçois Aurélien Benwalid aujourd'hui qui est neurologue et qui va donc nous parler aujourd'hui. Bah, il va pas nous parler en fait. Il va rester silencieux. Non, aujourd'hui, on va consacrer l'essentiel de l'émission à répondre aux questions des ados. Puis après, on reviendra un petit peu, si vous êtes d'accord, Aurélien, sur votre ouvrage qui est sorti.
Il y a 7-8 mois.
Il y a 7-8 mois et on en a entendu pas mal parler quand même. Vous étiez quand même sur France Inter chez Ali Réveilly. J'étais toute contente de vous entendre. Et on peut aussi écouter votre conférence sur le livre. Là, vous aviez donné une conférence à la librairie Kléber.
Oui, ça doit être sur YouTube, effectivement.
Oui, ouais, c'est sur YouTube et c'est très, très intéressant. Et pour les ados aussi, d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous avez cette façon de parler de sujets un peu obscurs de manière... Assez simple, je dirais.
Ouais, donc, voilà. Et j'ai surtout la conviction que c'est un sujet qui doit être enseigné, qui doit être discuté. Enseigné, c'est pas un bon terme. C'est un sujet qui doit être discuté avec les ados et même avec les enfants. C'est-à-dire que plutôt que parfois, excusez-moi, de perdre son temps avec certaines disciplines qui sont peut-être pas forcément hyper utiles, on fait de la biologie, c'est génial.
On essaye de comprendre ce que vous dites, on le comprend à demi-mot.
Voilà, on aborde des sujets qui sont extrêmement intéressants et on oublie complètement d'étudier l'être humain sur son versant un peu immatériel, psychologique, spirituel.
Oui.
Mais ça devrait être fait à l'école aussi. Il n'y a aucune raison que ce soit uniquement le domaine familial ou uniquement le domaine d'ailleurs de la synagogue ou de l'église ou de n'importe quel temple.
Le spirituel
il peut être laïque, il doit être laïque d'ailleurs à mon avis,
d'accord,
en grande partie. Et c'est un sujet qu'on ne doit pas faire l'économie de cette discussion avec les enfants et notamment avec les adolescents. Parce qu'un adolescent, c'est quelqu'un, on va le voir je pense avec les questions qui nous viennent.
Exactement.
C'est des questions qui sont extrêmement intelligentes. Enfin, je veux dire, les adolescents ont tout en place pour pouvoir mener les bonnes réflexions. Mais il faut aussi que les adultes derrière leur permettent d'accéder à ces questions-là. Et la question de la dualité entre le corps et l'esprit, elle doit faire l'objet d'une discussion et à mon avis, elle doit faire l'objet d'un enseignement à l'école. Moi, je me bats d'ailleurs pour que ça soit aussi enseigné en première année de médecine. Là, pour la première année, je vais donner des cours à l'école de kiné. Je pense que c'est important d'enseigner la psychosomatique dès le plus jeune âge. Donc,
et
les
qu'est-ce
ados...
que c'est la psychosomatique ?
Ben, la psychosomatique...
L'ado ne le sait peut-être pas forcément.
Ouais, la psychosomatique, c'est de dire quelle va être l'influence de ce qu'on appelle le psychisme, de l'esprit, de l'âme, de ce que vous voulez, sur notre santé. Et pas seulement sur la santé des maladies, mais aussi sur le mieux-être ou le mal-être, hein, tout simplement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut étudier cette interaction qu'il y a entre le corps très biologique et l'esprit, qui à mon sens est tout aussi biologique, mais qui fait quand même partie du domaine de la spiritualité. Et ça, aujourd'hui, on a des moyens de l'explorer, on a des moyens de l'analyser et de le prendre en charge, mais encore faut-il ouvrir le canal de communication avec les patients, et nous sommes tous des patients, et les adolescents sont aussi des patients, et c'est important de pouvoir... leur expliquer que parfois des changements qu'ils peuvent ressentir, qui ne sont même pas de l'ordre du bouleversement biologique, sont également sous-tendus et par le corps, et par des émotions, et par le spirituel. Et on a la possibilité d'avancer avec eux, de trouver des solutions. Il y a toujours la possibilité d'actionner des leviers thérapeutiques, quelles que soient les situations, mais simplement il faut avoir parfois le bon interlocuteur en face.
Oui, tout à fait. On parlait de l'hyperactivité la semaine dernière. Vous disiez que effectivement l'aspect... psy n'était pas forcément... Enfin...
Il faut jamais scinder les deux.
C'est ça.
C'est-à-dire, il faut jamais dire, oh là là, il est hyperactif, c'est la faute à son éducation, ou alors c'est la faute tout simplement à ses gènes. Les deux réponses sont fausses. Il faut de la nuance. Et ça n'est que dans la nuance, et c'est très important la nuance, ça n'est que dans la nuance qu'on va toucher un peu plus la réalité de ce qui se passe chez l'individu.
Tout à fait. Bah, à propos de spiritualité, on va essayer donc de parler de ces questions d'ados qui m'ont été envoyées. Je vous invite à m'en envoyer sur divers sujets. Je les garde en réserve et quand j'aborde les sujets en question, je les pose aux spécialistes. Donc aujourd'hui, je reçois Aurélien Benwalid, qui est neurologue. Et donc, on va parler effectivement du cerveau. Mais vous allez voir que les questions, avec Aurélien, on a été amusés, surpris et surtout interpellés par l'intelligence des questions qui ont été envoyées. Et on va parler donc du cerveau et de bien plus que ça. Donc, on va commencer par une question que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui est « Mon cerveau a-t-il un sexe ?»
Alors, ça, c'est une question qui est passionnante. On marche un petit peu sur des braises, hein, donc c'est un sujet qui est très complexe. En fait, on ne peut pas le simplifier. Si on veut le simplifier, on va finir insulté sur Internet, et ce n'est pas possible. Il est important de considérer l'être humain à la fois dans son versant biologique, j'allais dire dans son versant animal,
oui.
Mais également l'être humain dans son versant métaphysique. D'ailleurs, moi, quand j'évoque un petit peu les piliers de la médecine, ben, d'un côté, il y a ce que j'appelle la médecine vétérinaire, c'est-à-dire c'est important de pouvoir soigner l'être humain en tant que corps. Et il y a tout un versant qui est à la fois psychothérapeutique, etc., où on s'intéresse à l'animal métaphysique qu'est l'être humain. Quand on parle de « est-ce que le cerveau a un genre ?», c'est une question qui est très pertinente parce que on peut l'évoquer à différentes dimensions, à différentes échelles. Oui, le cerveau a un genre, c'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence et surtout au moment où le cerveau se met en place, in utero, il peut être soumis à un certain nombre de facteurs extérieurs. On parle notamment de perturbateurs endocriniens, etc. Mais également à un moment de l'enfance en particulier, il va y avoir une ambiance hormonale qui va se créer et qui va donner une orientation genrée au cerveau. Mais quand on dit ça, on a l'impression qu'on a tout dit, mais en fait, on n'a rien dit. Mmh. C'est-à-dire que si on considère l'être humain dans son versant animal, on peut dire que oui, le cerveau a un genre. Mais l'être humain, il a ça de particulier, qu'il a tout à fait la liberté de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de paramètres, on va dire, instinctifs. Vous savez, on dit souvent, l'instinct maternel. Ouais, y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel.
Oui.
Il y a même ce qu'on appelle des dénis de grossesse, parfois, où on est au 8e mois révolu sans que la grossesse ne soit su. L'être humain, il a cette capacité, et cette capacité, elle est liée au fonctionnement de son cerveau. Il a la capacité de s'affranchir de ses instincts. Et donc, il a la capacité de s'affranchir d'un certain nombre de paramètres hormonaux, d'un certain nombre de paramètres physiques au niveau de son cerveau pour pouvoir adopter un mode de vie, adopter des désirs, adopter des caractéristiques qui vont être parfois un peu différentes de celles qui sont inscrites dans le marbre gravé de son cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de pouvoir s'affranchir de sa part instinctive et de finalement pouvoir s'affranchir de sa part animale. Donc nous sommes des animaux qui avons la capacité de nous affranchir de notre animalité. Ouais. Et ça, c'est lié au fait qu'on a un cerveau qui est particulièrement élaboré. Là, on peut peut-être aborder très rapidement une notion. Alors, pour les ados qui nous écoutent, ne soyez pas effrayés par l'aspect un peu philosophique de la chose.
Ça m'effraie un peu quand vous dites qu'on peut aborder une notion.
Non, mais c'est ce qu'on appelle la néothénie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Julie, si on parle de néothénie? Pas forcément.
Hein. Non.
La néothénie, c'est très simple. La néothénie, ça veut dire quoi? Lorsqu'un bébé antilope naît, par exemple,
oui.
Eh bien, au bout de quelques minutes, l'antilope va pouvoir se lever et va pouvoir suivre le troupeau.
D'accord.
Par exemple, d'accord. Donc ça, c'est un type d'animal. Et l'être humain, lui, quand il naît, il n'a pas de griffes, il n'a pas de poils, il ne sait pas parler, il ne sait pas manger, et il ne sait pas faire grand-chose.
Mmh.
Et en fait, la néothénie, c'est ce concept qui dit qu'il y a une inversion de proportionnalité entre le temps de dépendance du bébé
d'accord.
et le degré de sophistication de son cerveau. Plus un bébé va être dépendant longtemps, plus il va avoir un cerveau qui, à l'âge de l'adolescence et à l'âge adulte, va devenir extrêmement complexe. Et vous vous rendez bien compte que chez l'être humain, c'est particulièrement vrai.
Oui.
La période de vulnérabilité du bébé humain est extraordinairement longue. Mm-hmm. S'il n'y a pas les nounous, les parents, l'école qui vont venir jusqu'à un âge parfois très très avancé, faire le lit, donner à manger, faire les courses, ranger les chaussettes, etc., l'enfant quasiment ne peut pas survivre.
Oui.
Et vous imaginez que c'est un luxe qu'on a finalement. Et c'est le luxe de l'évolution de Darwin, c'est ça, c'est de dire, ben voilà, comme on vit dans l'être humain a créé une civilisation, a créé une société, il a la capacité d'être entretenu pendant une longue période. Et cette longue période, c'est un moment qui est extrêmement important, c'est le moment où il va fabriquer justement toutes ces connexions synaptiques. Donc cette néothénie, je trouvais que c'était pas inintéressant, c'est pour se rendre compte à quel on a cette capacité d'avoir un cerveau sophistiqué. Et que cette extraordinaire sophistication, elle va nous permettre de nous affranchir d'une part instinctive. Et je reviens sur la question du genre. Donc, est-ce que le cerveau a un genre ? Oui et non.
Qu'en est-il de l'environnement ? C'est-à-dire des stéréotypes de genre, c'est-à-dire de toutes les injonctions de la société, etc.
Évidemment que là aussi, la question, elle est double. J'ai envie de vous dire, parce que il y a une influence extraordinairement importante de références qu'on va donner aux enfants, des couleurs qu'on va leur attribuer, mais dire en même temps que c'est uniquement ça, c'est aussi une erreur.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a aussi une part biologique, et si on est dans le déni de l'un ou de l'autre, là, on va se retrouver dans un stéréotype. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'accepter qu'il y a une intersection complètement mouvante entre les deux. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est malheureusement et heureusement beaucoup plus juste. Donc oui, il y a une influence de l'environnement. Aujourd'hui, on le voit bien à travers toutes les thématiques, avec l'évolution de la manière dont on considère la femme, dont la femme va s'imposer dans la société. Évidemment, il y a énormément de stéréotypes à abattre à grands coups de hache. Ceci dit, on ne peut pas non plus être uniquement dans le stéréotype sociétal. Il y a des éléments qui sont aussi de l'ordre des hormones, il y a des éléments qui sont aussi de l'ordre de la génétique.
C'est intéressant pour les ados, parce que c'est vrai qu'on combat quand même beaucoup en ce moment les stéréotypes de genre, en particulier les filles qui essayent de prendre leur place dans la société, et c'est bien normal. Mais c'est intéressant de ne pas nier cette
évolution. Voilà. Et puis les troubles de l'identité sexuelle, par exemple, il y a des choses qui sont très fortes. Parfois, il y a des enfants, garçons, qui se sentent femmes. Mais ce n'est pas juste qu'ils se sentent femmes, ils sont femmes.
Ouais.
Jusqu'au bout des ongles, jusqu'au fin fond de leur mitochondrie, ce sont des femmes. Mmh. Et pourtant, ils ont un sexe masculin et on doit leur dire de porter des habits. Donc le trouble de l'identité sexuelle, qui peut avoir des ressorts aussi bien dans le biologique que dans le psychologique.
Tout à fait.
Et bien ça, c'est une réalité, et c'est lié à la complexité, à la sophistication du cerveau. Et là aussi, on ne va pas d'un coup de baguette magique dire, tu vas être un garçon parce que tu es un garçon, donc on va te donner des G.I. Joe, ou alors on va te donner des Barbie parce que tu es une fille, tu vas t'habiller de telle manière, parce que surtout, mais en fait ça c'est de la poudre aux yeux par rapport à l'importance du séisme qui se passe dans le corps de l'enfant ou de l'adolescent. On est à des années-lumière de ce qui se déroule. Donc là aussi, il faut avoir une oreille très attentive et se rendre compte que l'identité sexuelle, c'est quelque chose qui existe. Donc le cerveau a-t-il un genre ? Oui, dans ce sens-là. L'organe psychique, le cerveau a un genre. Parfois, ce n'est pas le même genre par rapport aux chromosomes. Parfois, c'est le même genre. Mais il faut dans tous les cas l'accepter parce que oui, le cerveau a un genre, mais ce genre peut être amené à évoluer. C'est quand même beaucoup des choses qui se fixent. D'accord, c'est beaucoup plus rare d'avoir un cerveau ou un organe psychique qui change de genre à 25, 30 ou 40 ans, bien que tout soit possible. Ce sont souvent des choses qui sont très ancrées dans la personnalité, mais très important à accepter et à considérer comme réelles.
Merci Aurélien. Merci beaucoup. On avait une autre question qu'on avait trouvée chouette et dont on voulait parler aujourd'hui. C'était, donc il y a un ado qui m'a envoyé « Mon cerveau n'est pas mature, mais moi, je trouve que je le suis ». Est-ce que c'est vrai ? Enfin, il dit « C'est vrai, non ?»
Mais alors, son cerveau n'est pas mature. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau mature, j'ai envie de dire ? Son cerveau est mature, la maturité... alors, il est certain que chez un bébé, il y a une maturation qui s'effectue. Mm-hmm. Mais au bout d'un certain temps, donc j'en avais parlé la semaine dernière, il y a effectivement l'ensemble des neurones qui sont présents. Et ensuite, le cerveau, lui, va continuer à maturer jusqu'à, effectivement, fin d'adolescence, où à ce moment-là, au moins, le volume cérébral est défini.
Oui.
Et puis, bien sûr, il va aussi un petit peu diminuer avec l'âge, hein, le volume cérébral, parce que le cerveau...
Qu'est-ce qu'on entend par le volume cérébral ?
On n'entend rien. Le volume cérébral, c'est on peut le considérer en millilitres, en centimètres cubes, en millimètres cubes, en ce qu'on veut.
C'est-à-dire c'est un vrai volume, en fait.
Ah oui, c'est un volume, oui, tout à fait.
D'accord, je pensais qu'on parlait de la quantité de neurones.
Non, la quantité de neurones ne bouge pas. Et à un moment donné, on commence à en perdre.
C'est une question aussi.
Oui, il y a des moments où, à un moment donné, où on commence à en perdre, mais on est à la naissance avec quasiment tous ces neurones.
Oui.
Il ne va pas y avoir pendant l'adolescence une poussée de neurones.
Ou à l'inverse, un décès de neurones, ce que j'avais déjà entendu.
Le décès de neurones, il commence assez précocement, mais il est très lent et puis parfois il s'accentue s'il y a des maladies neurodégénératives. Mais c'est surtout qu'on est avec un ensemble de neurones qui sont prêts à fonctionner, mais qui surtout ne demandent qu'une chose, c'est aller développer tout un tas de ramifications. Et l'augmentation du volume cérébral, donc de la taille du cerveau, elle est liée justement à l'augmentation de ces synapses, à l'augmentation de ces ramifications de neurones, et non pas à une augmentation du nombre de neurones.
Donc, oui, là, c'est juste
pour c'est juste pour. Mais c'est vrai que la maturation, c'est un moment où, en fonction de l'environnement extérieur et intérieur, eh bien, l'organe va se structurer. Mais la maturité, c'est qui peut donner aujourd'hui une définition propre de la maturité. Il y a la maturité physique, il y a la maturité psychique. On sait bien qu'il peut y avoir un décalage important entre les deux, mais c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à toucher du doigt. Donc je dirais que ce qui est important, c'est la maturité psychique.
Oui.
Je veux dire, la maturité physique, c'est celle qui va effectivement faire qu'à un moment donné, le cerveau va sécréter des hormones qui vont permettre la poussée de croissance, l'augmentation de modification des organes génitaux, etc. Donc c'est la partie physique, elle est, on va dire, relativement inconsciente. Mais par contre, la maturité psychique, on le sait bien que c'est fonction de l'expérience. Quand on a face à soi des enfants qui ont vécu des choses tragiques ou importantes, etc., et ben on va être étonné d'avoir l'impression qu'ils ont une maturité absolument incroyable, parce qu'ils ont tout est en place, en fait. Dès la naissance, tout est en place. Après, il faut du temps, parce qu'il y a énormément de connaissances et d'expériences à acquérir, mais la maturité, ça n'attend pas forcément le nombre des années.
Oui, et puis on n'a pas l'impression, je ne sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais il y a des fois où j'ai le sentiment, enfin je croyais en tout cas à l'adolescence qu'à un moment j'allais me sentir adulte pleinement et tout le temps, et en réalité non, c'est l'expérience qui apporte le fait d'avoir les bonnes attitudes dans les bonnes situations, etc., et être adulte, c'est pas d'un jour à l'autre et c'est pas une situation permanente.
On connaît tous des adultes qui sont pas encore adultes et puis des enfants qui sont adultes à la place de leurs parents.
Ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est bien
c'est
la preuve.
C'est peut-être ça qu'il voulait nous dire l'ado là avec sa question. Je me sens mature alors qu'on cerveau ne l'est pas.
Il est mature avec son degré d'expérience. Voilà, il faut simplement peut-être à chaque période pour tous les ados qui nous écoutent avoir l'humilité de se dire bon j'ai pas encore tout vécu. Et j'ai peut-être pas encore vécu non plus certaines expériences de mes parents. Oui. Donc, ils ont encore peut-être quand même des éléments à m'apporter. Ça, j'ai des enfants aussi, alors je le dis un peu pour qu'ils m'écoutent.
Oui, et puis il y a aussi les ados qui vivent maintenant des expériences que nous, on n'a pas du tout vécues. Notamment avec les écrans, avec leur manière d'avoir une espèce de vie parallèle sur les réseaux sociaux, où ils sont tout le temps en train de parler à 15 personnes en même temps, alors qu'on a l'impression qu'ils sont en train de glander, entre guillemets, dans leur chambre. Ils ont une activité que nous, on n'a pas.
Ils ont des goûts, des goûts musicaux que nous, on n'a pas. Et une fois de plus, il s'affirme.
Oui.
Donc même si cette affirmation, elle passe par, on va dire, la révolte par rapport au système qui est en place, c'est une manière comme une autre d'exister contre quelque chose et d'exister avec une culture alternative. C'est comme ça que la musique a évolué, c'est comme ça que les idées ont évolué.
Tout à fait.
Et donc c'est tout à fait important de leur laisser une place. Et on ne peut pas dire que telle musique soit moins mature. On est dans un décalage d'expérience, mais à chaque étape, on a la maturité qui correspond à nos expériences. Et moi, j'ai moins de maturité que des aînés. Et ça, c'est très chose d'ailleurs qui est très important. Moi, j'en parle souvent avec mes patients qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont plutôt dans le grand âge et qui me disent, je perds la boule, vous avez vu mon IRM, mon cerveau, justement, il n'a plus le même volume, etc. Et il n'y a pas de corrélation dans l'autre sens non plus. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, effectivement, la mémoire immédiate est moins bonne, parce que le volume cérébral est moins bon. La taille ne compte pas forcément. C'est plutôt l'expérience. Et c'est cette accumulation d'expérience, c'est ce qui va apporter souvent la maturité.
À propos d'expérience, je ne sais pas, on parle souvent de cerveau gauche, cerveau droit, etc. On avait une question d'ado sur la bosse des maths. Est-ce que ça existe, la bosse des maths ?
Non, ça n'existe pas. C'est hyper intéressant. C'est ce qu'on appelait la phrénologie. La phrénologie, c'était à l'époque où on s'était intéressé au relief qu'il y avait à l'intérieur du crâne.
D'accord.
Et on essayait de faire des corrélations. La phrénologie, c'est ce qui donne lieu. Après, on peut dire, le juif, il a telle caractéristique physique. La bosse des maths, c'était l'idée
On peut aller très loin.
C'était à l'origine. Ça a vraiment été à l'origine beaucoup du. Pas l'origine, mais c'était empreint de racialisme, notamment. Mmh. Bien entendu, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bosse qui apparaît sur une circonvolution du cerveau qui s'hypertrophie quand on est bon en maths, en tout cas qui ne se voit pas du tout ni aux examens d'imagerie et encore moins sur la surface du cerveau d'un individu. Mais ça a été cette idée, on commençait à comprendre que dans le cerveau, il y avait différentes fonctions en fonction selon la région qu'on regardait au niveau du cerveau. Et donc, certains s'étaient dit, ça c'est la bosse des maths, et puis plus tard, ça sera, ça c'est la bosse de la violence. On va peut-être faire être préventif et on va enfermer les gens. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est la porte ouverte à des dérives extraordinairement graves. Et on ne peut pas, à partir du relief et encore moins à partir d'une IRM, se faire une idée d'un individu. Ça, c'est important. Et on en parlait la semaine dernière, l'imagerie cérébrale, à la fois, elle nous apporte des éléments fondamentaux dans la compréhension de certaines maladies, mais elle peut être parfois aussi très trompeuse si on s'y intéresse de manière un peu approximative, parce qu'il ne faut pas oublier que le psychisme, et ça c'est l'objet de quelque chose que je développe notamment dans le livre, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe et qui est totalement inaccessible pour l'instant à nos outils d'investigation.
D'accord.
Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont avoir un bout de cerveau en moins à cause d'un accident, qui vont réussir à faire des choses super. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut et qui ne font rien. on ne peut pas définir un individu en fonction de la forme de son cerveau, mais c'est quelque chose qui a longtemps traîné. Et il y a encore, des petites maquettes de cerveau où on dit là c'est les maths, alors qu'ils ne sont plus d'actualité bien sûr, mais pour dire que c'est quelque chose qui
existe. Par contre, cerveau gauche, cerveau droit, on valide ou pas ?
Ah ben oui, il y a une différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit, ça c'est évident. Mais
déjà, c'est pas du même côté.
Non, c'est pas du même côté, mais de la même manière qu'on a parlé avant du fait qu'il peut y avoir des éléments de genre dans le cerveau, il est évident que le cerveau gauche et le cerveau droit n'ont pas la même fonction. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion de « c'est plus artistique », etc. C'est parfois beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans le développement de l'enfant, plutôt à l'échelle embryonnaire, il y a des choses qui vont se latéraliser assez rapidement. Et nous, quand on voit des patients qui ont malheureusement des tumeurs ou des accidents vasculaires cérébraux, selon que ce soit à gauche ou à droite, ça peut donner des symptômes extrêmement variés. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions qui sont là-dedans. Mais par contre, il y a possibilité parfois de translater une fonction d'un endroit à l'autre quand celle-ci n'est plus fonctionnelle.
Oui, on peut activer en fait des zones du cerveau qui sont inactives.
C'est la plasticité. Quand on parlait avant de la néoténie, cette capacité à faire de la synapse, à aller faire des prolongements de neurones pour justement continuer à servir la cause de l'individu, ça, c'est des choses qui existent évidemment.
Ah oui, c'est intéressant. J'avais vu un documentaire sur une certaine forme de cécité qui avait été, entre guillemets, traitée en activant d'autres zones du cerveau.
Oui, il y a beaucoup
c'est
de recherches.
C'est passionnant.
Parfois, ce que essaie de faire la médecine aussi, c'est de guider justement cette plasticité pour qu'elle aille dans le bon sens, parce que la plasticité parfois peut aussi aller dans le mauvais sens, puisque notamment c'est tout ce qui est autour de l'épilepsie. L'épilepsie est très empreinte de plasticité synaptique. Donc l'idée d'aller guider la plasticité ou d'aider la plasticité à se faire dans la bonne direction, ça c'est un courant important de la recherche médicale.
D'accord, parfait. Merci Aurélien. On va essayer de terminer en parlant un petit peu justement de votre ouvrage « Non, ce n'est pas que dans votre tête » publié aux éditions Marabout. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur ce livre pourquoi on aurait envie de l'acheter, sachant qu'on y parle des maladies psychosomatiques, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de la philo, c'est de la psycho, c'est énormément de choses.
Moi, j'avais écrit ça d'abord comme un manifeste. J'ai commencé très révolté. D'ailleurs, au fur et à mesure du livre, ça se sent. J'ai commencé très vénère, et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé des solutions. Moi, je me suis aussi élaboré, donc j'espère aussi que les gens qui vont le lire vont pouvoir comprendre qu'on peut évoluer vis-à-vis vis-à-vis de ces questions-là. Et que, effectivement, là où au départ, j'étais face à une situation qui me semblait insoluble, eh bien, j'en suis venu à essayer de proposer et aujourd'hui à mettre en œuvre des stratégies et des parcours qui permettent justement d'accéder à une prise en charge plus holistique, plus
dans
intégrative.
Dans le centre que vous venez d'ouvrir.
Voilà, le centre Ellipse qu'on a monté avec quelques amis à Strasbourg, dans lequel voilà, on essaie de développer notamment des approches psychothérapeutiques intégratives, transversales. On a l'impression d'être des aventuriers un peu parce qu'on propose un modèle qui n'a pas véritablement d'équivalent. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était de la révolte, c'était de dire... Quand un patient vient nous voir en consultation et qu'on me dit bah, oh, j'ai vu mon, je peux pas travailler parce que j'ai des douleurs, c'est insupportable, je vais très mal, et mon médecin m'a dit tout va bien, c'est dans votre tête. Ça, c'est plus audible.
C'est terrible.
C'est plus audible de laisser, de laisser croire au patient que dire que c'est dans la tête, ça veut dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on n'y croit
qu'il
pas.
Qu'il est nié.
Ça veut dire qu'il est nié dans sa souffrance.
Son
il est nié dans son. Mais il est nié par la société aussi, puisqu'on va pas vouloir lui donner d'invalidité, de compensation financière, que sais-je. Donc en fait, une part non négligeable, quasiment 30% de la population se retrouve parfois face à un mur. Et c'est ce mur que j'essaye un tout petit peu d'ébrécher à ma modeste envergure avec ce livre.
On pourrait en parler des heures. Malheureusement, on est arrivé au bout là, de notre timing. On retrouvera toutes les références de votre livre en dessous du podcast de l'émission. Merci encore d'être venu. C'était un plaisir de discuter avec vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et puis à bientôt peut-être.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,